Alors, cette semaine, il faisait beau, je vais chercher le pain, et je croise un voisin qui était dans son jardin, et je l'entends maugler sur la mousse qu'il y avait dans son jardin. Alors, comme il n'était pas content, je lui dis « Ah, mais tu sais, il y a d'autres mousses qui sont bien meilleures !» Et il est du Nord, donc il a compris tout de suite ce que ça voulait dire. Mais il a continué, c'est un bon Français, il se plaint, c'est normal. Quand c'est comme ça, c'est que tout va bien. Et donc, il se plaignait, « Ouais, j'en ai marre de cette mousse et tout. » Alors moi, je le regarde et puis je lui dis, « Ah oui, effectivement, j'en ai aussi. Mais tu sais, hein, la mousse, c'est quand même pas mal parce que tu peux marcher dessus en été et t'as pas mal aux pieds. Chez moi, j'ai en plus des chardons. » Ah, il me dit, « Ah, t'as des chardons ?» Je lui dis, « Oui, j'ai des chardons. » Et je lui dis, « Tu sais d'où ça vient, tout ça ?» Et puis, il me dit, « Bah ouais, c'est les oiseaux qui s'aiment. » Je dis, « Non, bien avant. »« Ah bon, mais d'où ?» Je lui dis, « Bah ça, c'est la faute d'Adam et Ève. » Ah, puis comme il sait que je suis pasteur, il me dit, ah oui, ah bien au fait, il rebondit, forcément, il savait pas trop en fait, hein, mais c'est pas grave, j'ai glissé ça dans la conversation, et il me dit, ah oui, au fait, tu sais, j'ai regardé un reportage cette semaine, et il paraît que c'est pas une pomme, le fruit défendu. Ah bon? Je dis, alors c'est quoi? Il me dit, c'est sûrement une figue. Ah, je lui dis, bah, je la connaissais cette théorie. Je lui dis, mais tu sais, le texte dit que c'était juste un fruit attirant. Donc une figue, pff, je ne sais pas si c'est très attirant. Hein, ça vous attire les figues, vous? Franchement? Ouais? Bon, enfin, c'est assez fade, hein, c'est vert. Une pomme rouge, c'est quand même plus attirant. Enfin bref, peu importe, je n'allais pas lui vendre la pomme, parce que je lui dis, ah mais ça a du sens. Tu sais pourquoi ça a du sens, le figuier? Bah, il me dit, bah non. Je dis, bah tu sais, Adam et Ève, tu sais ce qu'ils ont fait après? Quand ils ont mangé du fruit défendu, il y avait un truc, ils ont commencé à ressentir quelque chose de négatif, des émotions négatives. Ils avaient honte, ils se sont sentis tout nus. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah ils ont pris des feuilles de figuier. Alors probablement qu'il y avait un lien. On sait pas trop en fait, hein. Mais je lui dis, ça a du sens en tout cas. Et tu sais ce qu'ils ont fait avec ces feuilles de figuier? Je lui dis, non, mais ils se sont fabriqués un pagne. Ah bon? Et je lui dis, mais toi, t'as un figuier dans ton jardin? Il me dit, bah oui. Je dis, t'as remarqué ce qui se passe quand les feuilles tombent par terre? Il me dit, ah ouais, c'est dingue. En fait, tu les laisses, au bout d'une heure, elles ont diminué de moitié. Et on a commencé à rigoler parce qu'on s'est dit, mais t'imagines Adam et Ève avec leur pagne, au bout d'une heure, pfft, il a réduit de 50%. 2 heures plus tard, 50%. Et puis là, j'ai rebondi, je lui dis, mais tu sais, en fait, ça représente les œuvres. C'est ce que les hommes essayent de faire pour cacher la misère. Et en fait, tu sais ce que Dieu a fait à ce moment-là? Parce que c'est ce que font tous les hommes. On va cumuler les œuvres et puis il en faudra toujours d'autres parce que ça sèche en fait, ça tombe et il nous en faut encore d'autres. C'est ce que Dieu a fait? Eh bien, il a sacrifié un animal et il a pris la peau de la bête et il les a couverts. Il a couvert leur nudité pour que ça soit plus durable. Il a couvert leur honte de cette manière-là. Et vous savez ce que c'est ça, hein? C'est la grande histoire. C'était tout frais dans ma tête. Bon, je l'enseigne, mais vous l'avez entendu combien de fois, cette histoire? C'est la 7e rencontre aujourd'hui. Et on est, pour ceux qui prennent le train en marche, on suit un petit manuel, et c'est une petite formation qu'on fait pour l'Église. Mais vous voyez, vous n'êtes pas obligé de suivre tout le temps le manuel. Là, je l'ai fait en allant chercher mon pain. Hein, c'était pas, même pas prémédité, mais c'était là. Vous voyez, le cœur, hein, la tête, c'est tout, c'est la même chose. Hein. Et en fait, j'avais le manuel dans ma tête, j'avais cette grande histoire, et vous avez vu que, au travers tout simplement de la vie, on peut facilement atterrir. Il suffit d'avoir un peu d'imagination, et puis le Seigneur nous aide. Alors, on s'en est arrêté là, dans la conversation. On n'a pas démarré un parcours découverte de la Bible, mais c'est juste pour vous montrer l'utilité, parce que, en fait, plus vous allez connaître cette grande histoire, plus vous allez pouvoir rebondir sur les éléments de la vie, qui sont tout simples, en fait. Alors, aujourd'hui, on est à notre 7e session. Je fais juste un petit débrief ou remake de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est un parcours qui se joue en 12 rencontres, 12 sessions, et le but c'est de le faire avec nos amis. D'accord? Alors tout le monde n'est pas à cette étape de la vie, hein, on va pas proposer forcément à tous nos voisins, ah est-ce que tu veux... Non, c'est des gens qu'on a déjà travaillé quelque part, où le cœur est déjà préparé, Et où on va faire une proposition, ben écoute, si ça t'intéresse, tu peux découvrir la Bible, et du coup, on propose cet outil-là. On a déjà vu quoi ? Ben, première session, la fiabilité de la Bible. La deuxième, c'était sur la création, Genèse chapitre 1 et 2, hein, et on a vu ce récit-là. Ensuite, on a vu l'indépendance. L'homme a choisi son indépendance, et ça, c'est le chapitre 3, un chapitre fondamental qui nous aide à comprendre justement pourquoi il y a des chardons et de la mousse dans nos jardins. Et le chaos dans nos vies, hein, faut pas l'oublier, la souffrance et aussi la mort, parce que c'était une des conséquences de l'indépendance. Ensuite, eh bien, on a vu que il y avait, mince, voilà, le sacrifice, et là, c'est l'histoire d'Abraham, Genèse chapitre 12, chapitre 17 et 22, et où on voit ici une prémisse de ce que Dieu veut, donc il interpelle un homme. Et puis ensuite, on va à Moïse, on saute dans Exode 20, et là on a vu la loi, mais dans la même session, donc là on voit l'incapacité de l'homme à obéir à la loi de Dieu, obéir parfaitement à la loi de Dieu, on peut obéir ponctuellement à un ou deux commandements, mais on voit qu'on ne peut pas obéir à tous les commandements tout le temps, en fait. Et donc, ça montre notre incapacité, mais Dieu donne une solution. Il avait donné des prémices déjà dans Genèse, là avec cette peau d'animal qu'on retrouve dans le sacrifice d'Isaac et qu'on va retrouver avec le Messie souffrant dans Ésaïe 53, un texte extraordinaire. Et c'est dans cette leçon-là, dans la leçon numéro 4, la session numéro 4. Ensuite, on voit l'apparition du Sauveur. La solution se dessine petit à petit. On voit une naissance miraculeuse. Et donc, comment est décrit au travers de l'évangile de Luc et du regard de Marie, sa mère, le Messie, Jésus. Et puis, la dernière session qu'on a vue, ça s'appelait Inauguration. Et on a vu Jean chapitre 2, deux épisodes, les noces de Cana et quand Jésus chasse les vendeurs du temple. Et on l'avait fait en deux fois. Et on voit ici que Jésus était hors norme. Hein, il est à la fois rempli de grâce, il va donner du vin en abondance lors d'un mariage, et en même temps, il voit et il juge le péché de ces vendeurs dans le temple qui avaient complètement détourné l'objet du temple et qui privaient même les païens d'avoir accès aux miettes de l'évangile quelque part, parce qu'il leur piquait leur place à l'intérieur du temple. Et donc le résumé... Le voilà, c'est ce qu'on trouve à chaque fois dans le manuel. Le voilà, le résumé de la session 6. Jésus démontre sa puissance et son autorité. Il veut à la fois prouver qu'il a le pouvoir de répondre aux besoins des êtres humains, ça c'est les noces de Cana, et qu'il est profondément indigné par l'injustice qui peut se vivre sur terre, et ça c'est les vendeurs dans le temple. Et aujourd'hui, on va découvrir la session numéro 7 qui s'appelle sauvetage. Alors sauveur, sauvetage, on va revoir des éléments quand même, vous allez voir que ça se ressemble. Mais on apprend encore des choses supplémentaires aujourd'hui. Et l'objectif de cette session, c'est découvrir ce que Dieu demande pour entrer dans son royaume. Vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle session ? Eh bien écoutez, je vous invite à écouter attentivement le texte et à le lire. Il va s'afficher ici ou sinon dans vos manuels, c'est le même texte. Et donc on va écouter la bande-son.
Pendant que Jésus était à Jérusalem lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit
« Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. »
Jésus lui répondit
« en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu.
Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?
Jésus répondit :
en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit : il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit.
Nicodème reprit la parole.
Comment cela peut-il se faire ?
Tu es l'enseignant d'Israël, et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu.
Voilà, merci aux sonoristes. Alors, on attaque. Première question, c'est dans le manuel. Pourquoi certaines personnes croyaient-elles faussement en Jésus ? Et la deuxième qui va venir tout de suite après, qu'en dit Jésus ? Alors, pourquoi certaines personnes croyaient-elles faussement en Jésus ? Vous avez une petite idée ? Allez. Normalement, vous le connaissez super bien, ce texte. C'est un des textes les plus lus et les plus connus dans le milieu évangélique. Alors, parce qu'ils ne connaissaient pas, ouais, ça c'est une des raisons, mais pourquoi ils croyaient faussement en Jésus ? C'est dans le texte, si vous voulez. Allez, on va aller directement dans le texte. Ils s'accrochaient exactement au miracle. Alors le miracle en lui-même, il peut nous attirer à la foi, mais le miracle en lui-même ne nous donne pas la foi. Il faut être très clair là-dessus. Ça peut susciter la foi, mais la foi, c'est à vous, à un moment donné, de prendre les rênes quelque part et de placer votre confiance. Mais le miracle peut nous interpeller. D'ailleurs, statistiquement, dans l'immense majorité des cas, les miracles ne produisent pas la foi dans la Bible. On voit des gens qui sont étonnés, des gens qui sont surpris, des gens qui ont peur, des gens qui sont émerveillés, mais des gens qui croient suite au miracle, il y en a très peu en fait. Statistiquement, il y en a très, très peu. Je crois que c'est 6 ou 7% des cas. Donc vous voyez que c'est pas si nombreux que ça. Par contre, c'est vrai que ça éveille notre curiosité. Et c'est ce qu'on lit ici, hein, si vous lisez le texte. Je vous lis à partir du verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, donc ses disciples se souvinrent, qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc vous voyez, un disciple voient le miracle. Là, ils avaient laissé tomber Jésus pendant un temps. Et qu'est-ce qui se passe après la résurrection? Ses disciples se souvinrent qu'il avait dit des choses et à quoi ils croient? Est-ce qu'ils croient au miracle? Non, non. Il dit, ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, ils croyaient dans les écrits de l'Ancien Testament et dans les paroles que Jésus leur avait dites. Vous voyez, ça, c'est un disciple. OK? Donc, quelque part, le miracle a suscité des questions, mais ils ont placé leur confiance dans les écrits et dans la personne de Christ. Vous voyez la différence? Et maintenant, regardez la suite. Verset 23. Beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. OK? Donc, vous voyez, on voit un lien direct. Mais le verset 24, il casse tout. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Ouf. Ah, où est le problème, là? Où est le problème? C'est pas qu'ils ne croyaient pas. Hein. Ils croyaient. Mais c'était la nature de leur foi, l'objet de leur foi. Si l'objet de notre foi, c'est les miracles, alors on va être simplement émerveillé. On a une foi, hein, c'est une forme de foi. On ne peut pas le nier, c'est une foi, mais elle est très limitée, elle est superficielle. En fait, ces gens ont cru à cause de ce qu'ils voyaient. Et honnêtement, la plupart des humains, moi, je suis friand des choses spectaculaires. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez votre télé, et vous voyez bien qu'on est attiré naturellement quand on voit un exploit. Là, c'était les Jeux Olympiques, j'ai regardé, vous savez, les gens qui font du freeride, donc ils sont dans un grand tunnel en neige, et puis ils font des figures acrobatiques, c'est juste stratosphérique ce qu'ils vivent. Et donc je suis attiré par ça. Et je regardais les statistiques, vous savez que les Jeux Olympiques, quels sont les moments où les gens sont le plus connectés, où il y a la plus grande audience pendant les Jeux Olympiques. Vous savez à quel moment c'est? À l'ouverture et à la fermeture. Vous savez pourquoi? C'est à cause des feux d'artifice. C'est à cause du show extraordinaire qu'on peut voir. Mais la plupart des gens qui sont connectés à l'ouverture ou à la fermeture des Jeux Olympiques ne regardent même pas les compétitions. Donc, ça veut dire qu'on est attiré, en fait. L'être humain est attiré par ces choses-là, par tout ce qui est spectaculaire, mais ça ne procure pas une relation. Ça ne donne pas la foi qui dure. En fait, la plupart du temps, on oublie très rapidement. Vous aimez les feux d'artifice, j'imagine. Hein ? En France et en Suisse, on fait des feux d'artifice pour la fête nationale. Mais honnêtement, quand on a regardé les feux d'artifice, vous irez voir 2 minutes après que le feu se soit éteint. Est-ce que ça a changé votre vie ? Et 24 heures plus tard, est-ce que vous y pensez encore? Vous avez tout oublié. C'était super. Ça vous a... Waouh! On était émerveillés. Hein, vous arrivez dans la salle du culte, vous regardez le lustre et vous faites... Waouh! Mais je pense que vous avez oublié quand vous rentrez chez vous pour manger ce midi. Vous aurez oublié ce beau lustre. C'est Versailles ici. On dirait presque, hein? En fait, on est friand de ces choses-là, les êtres humains, on est impressionnés. Et donc, c'est une forme de foi, mais cette foi-là, elle ne dure pas dans le temps. Ça ne conduit pas la personne à se confier en l'auteur du miracle, d'accord? C'est simplement de l'admiration. Et donc, ces gens croyaient en Jésus comme un faiseur de miracles, pas comme un sauveur du péché. Vous voyez? Et si on doit placer notre confiance, il faut que l'objet de notre foi soit juste. Je pense que certains voyaient en Jésus vraiment le Messie. Mais un Messie qu'ils s'étaient construit. Un Messie à leur image. Hein, un Messie guérisseur. Un Messie bienfaiteur. Un libérateur politique. Mais pas un Messie souffrant qui était venu pour mourir et porter leur péché. Vous voyez, c'était pas du tout personnel. C'était quelque chose qui était distant quelque part. Donc ça, c'était la première foi. Leur foi était basée sur le spectaculaire. Et la deuxième, c'est que c'était une foi opportuniste. Opportuniste. Et vous avez vu l'image que j'ai mise ici? Ça vous fait penser à quoi, ça? Ça, ce sont des gens de la jet set qui font la fête sur un yacht. Les riches ont beaucoup d'amis. Vous savez pourquoi? parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils peuvent arroser. Hein, et que même si on n'a que quelques miettes, les miettes d'un milliardaire, c'est pas mal. Hein, et donc, quand on a beaucoup d'argent, on a beaucoup d'amis. Et ces gens-là constatent que quand le robinet se coupe, eh bien, il y a beaucoup d'amis qui s'en vont aussi. Hein, et c'est ce qu'on appelle la superficialité ou justement l'opportunisme. Hein, donc là, on connaît un bienfaiteur qui peut répondre à nos besoins immédiats. C'est vraiment ça, l'opportunisme. Et du coup, on le trouve dans la Bible. À maintes reprises, dans les Proverbes, je vous ai pris que deux versets, mais il y en a à maintes reprises, pas que dans les Proverbes d'ailleurs, mais dans les Proverbes en particulier. Proverbe 19:4, la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Eh oui. J'en ai sauté un, mais moi je l'ai ici. Verset 6, beaucoup flatte l'homme généreux, et tous sont amis de celui qui fait des cadeaux. Eh oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que c'est ce type de personne, et en tout cas de foi, que Jésus décrit ici. Tant que Jésus faisait des miracles, qu'il les bénissait, les gens étaient admiratifs et le suivaient. Mais beaucoup de ces gens qui l'ont suivi pendant un temps, tant qu'ils avaient des bénéfices, étaient là. Mais dès qu'il est mort, alors là, beaucoup sont partis. Même Jésus reprend ses disciples à un moment donné, hein, et il dit, vous aussi vous voulez partir, comme les autres. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui l'ont suivi, mais il y en a beaucoup qui partaient aussi. Il y avait un gros turnover autour de Jésus. Parce qu'une fois qu'ils avaient eu leur cadeau, ils étaient contents, ils pouvaient aller voir ailleurs. Mais ils n'avaient pas plus d'intérêt, ils étaient juste opportunistes. Et donc peut-être que c'est ce genre de foi, c'est ce genre de foi que Jésus dénonce ici. Vous savez, cette semaine, j'ai vu une personne et qui m'a dit, tu sais, je souffre depuis tellement longtemps, je suis allé voir plein de médecins, et bien là, j'ai décidé, je vais aller voir un guérisseur. Ok. Bon, il n'est pas chrétien. Je lui ai dit, ouais, peut-être qu'il y aurait d'autres moyens. Tu sais, moi, je connais un grand guérisseur, tu n'as pas l'assurance d'être guéri, mais je peux te dire que ça va changer ta vie. Admettons que ça fonctionne. Hein, le guérisseur, vas-y, le soulage. Ça peut arriver. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne va suivre ce guérisseur? Est-ce qu'elle va s'attacher à lui? Est-ce qu'elle va se soumettre à son enseignement? Est-ce qu'elle va se consacrer sa vie à ce guérisseur? Parce qu'il va vraiment la soulager. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? On sait tout ce qui va se passer. Elle va dire merci, elle va payer. Et puis, sa vie va reprendre. Mais il n'y aura pas de transformation de son cœur, pas de transformation intérieure. Voyez. Et c'est ce qui se passe ici. Ces gens allaient voir le guérisseur, quelque part. Et ils voulaient juste être guéris. Ils voulaient tirer bénéfice de Jésus. C'était simplement de l'opportunisme. Et vous connaissez probablement des gens comme ça, et vous en avez connu, et nous en avons connu ici. Depuis 5 ans que je suis à l'église, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Hein, peut-être beaucoup plus que ce qu'il y a là, simplement. Chaque dimanche, on a des nouveaux. Ils passent, ils écoutent, ils croient un temps, et ils s'en vont. Et il y en a, ils durent un petit peu plus longtemps. Puis une épreuve arrive, et ils s'en vont. Et ça, c'est la réalité de la vie. Donc Jésus, là, ce matin, il va nous interpeller. Vous allez voir, c'est juste après. Qu'est-ce que Jésus, il en dit? Eh bien, regardez bien au verset 23 et 24. Plusieurs crurent en son nom. Et la suite, alors ça, c'est le verset 23, un peu plus loin. Mais Jésus ne croyait pas en eux. En fait, il y a un jeu de mots ici qu'on ne perçoit pas trop dans nos versions, mais c'est le même verbe. Et donc, Jésus fait un jeu de mots ici. Il dit, plusieurs crurent en lui, c'est-à-dire lui firent confiance, donc ils firent confiance à Jésus, mais Jésus, de son côté, ne leur faisait pas confiance. Il ne croyait pas en eux, c'est le même verbe. Pistéo, c'est vraiment le verbe croire, ici. Mais voyons, on peut croire d'une différente manière. Et eux, ils croyaient en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en leur foi. Tiens, étrange. Étrange. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi et finalement, Jésus ne croit pas en notre foi. Vous connaissez une autre personne qui croit en Jésus et qui n'est pas convertie? Le diable? Les démons? Ils croient en Dieu. Je peux vous assurer qu'ils croient en Dieu. La Bible le dit, Jacques le dit clairement. Ils croient qu'il y a un seul Dieu. Et ils font quoi? Ils tremblent. Ils ont les mouillettes. Ils n'ont pas de relation. Ils ne sont pas soumis à Jésus, vous voyez, à Dieu. Donc, il y a vraiment une forme de foi qui est là, mais c'est pas une soi, c'est pas une foi qui sauve. Et on apprend autre chose au verset 24 et 25. Regardez ce que dit Jésus, ce que dit Jean. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jésus les connaissait tous parfaitement. Il savait exactement ce qu'il y avait dans leur tête, dans leur pensée. Il connaissait leur motivation profonde. Il savait tout d'eux. C'est ce que dit le texte ici. Il n'avait pas besoin de 3 séances chez un psy, assis sur un divan, à poser des questions pour connaître ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. Il connaissait l'état d'âme comme ça, simplement en regardant la personne. Jésus n'était ni psychanalyste, ni psychologue. Il n'avait pas besoin de discuter. Il savait, dès qu'il voyait la personne, ce qu'il y avait dans son cœur. On le voit à plusieurs reprises dans les évangiles. Il savait exactement ce qu'il pensait. Il connaissait leurs mauvaises pensées en parlant des pharisiens. Vous vous souvenez de ces textes? En tout cas, ici, il est clair que Jésus savait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Ça devait être assez déroutant, d'ailleurs, de discuter avec Jésus. Vous imaginez quelqu'un qui vous regarde comme ça et qui sait exactement ce qu'il y a dans votre tête au moment où il vous parle. Il sait que dans la conversation, vous avez caché des petites informations pour que vous ne perdiez pas la face. Il sait que vous avez peut-être un petit peu menti, un petit peu déformé la réalité, un petit peu amplifié pour vous faire... pour vous faire un petit peu mousser quelque part. Jésus savait exactement ça. Ça devait être troublant. Troublant. Et qu'est-ce que dit le texte ici? Il dit qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur. Qui est capable de lire dans le cœur? Est-ce que ChatGPT est capable de lire dans votre cœur? C'est probablement l'intelligence artificielle. Je prends ChatGPT, mais il y en a beaucoup d'autres des intelligences artificielles. Ils ont un cerveau surdimensionné. Vous mettez des milliers de médecins, de chirurgiens, de mécaniciens, de tout ce que vous imaginez, et il a ce savoir-là. C'est presque Dieu. Avant, c'était Google, maintenant c'est ChatGPT. Est-ce que vous pensez que ChatGPT arrive à lire votre cœur? Est-ce que vous pensez que le diable arrive à lire dans votre cœur? Est-ce que vous pensez que les démons arrivent à lire dans votre cœur? Non. Alors ils connaissent bien l'être humain. Ne vous inquiétez pas. Ils savent très bien comment on réagit. Et quand on dit une chose, qu'on fait autre chose, ils savent très bien appuyer là où ça fait mal. Mais il n'y en a qu'un seul, les amis, qui peut lire notre cœur comme ça, c'est Dieu. Et dans l'Ancien Testament, c'était clair, et dans le Nouveau, encore plus avec Jésus. Regardez ce verset dans 1 Samuel 16. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, les apparences extérieures, mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, il sonde ce qu'il y a dans nos cœurs. Avant même qu'on ait émis une prière, il sait ce qu'on va dire. Ça, c'est son omniscience. Mais figurez-vous que Jésus avait cette omniscience. Et c'est ce qu'on lit en Hébreux 4, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu voit tout, il perce tout, tous nos secrets, toutes nos petites choses qu'on cache. Il les connaît à la perfection et instantanément, il est capable de nous le dire. Et c'est ici qu'on voit l'identité de Jésus. Il voyait exactement ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Donc vous voyez ce Jésus-là, c'était juste des petits bouts de phrases qu'on a regardés jusque-là. On voit que c'est Dieu ici à qui on a affaire. Jésus a l'omniscience du Créateur. C'est un attribut divin. Et il a cette connaissance-là. Première question donc, qu'en dit Jésus? Deuxième, en quoi ce que Jésus propose à Nicodème est-il surprenant? Que cherche-t-il à faire comprendre à Nicodème? Alors regardez en verset 2. Nicodème vient de nuit, trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Et là, le contraste est effectivement assez frappant entre ces gens qui étaient venus et qui venaient, qui suivaient Jésus et qui avaient une foi superficielle, et là, on voit quelqu'un en recherche. Mais quelqu'un d'érudit, hein, ce n'est pas quelqu'un d'opportuniste, même si on pourrait voir sa venue discrète comme un opportuniste. Non, je pense qu'il y a une discrétion due à sa position. Vous savez ce qu'il est ? Le texte dit qu'il est pharisien. Pharisien, c'est quoi un pharisien ? C'était un docteur de la loi, quelqu'un de rigoureux qui cherchait à respecter la loi dans le détail. Et d'ailleurs, les pharisiens étaient très appréciés pour ça. Tout le peuple admirait cet absolutisme, le fait qu'il soit ultra-orthodoxe, rigoureux. Et donc, c'était des hommes consacrés à Dieu, donc quelque part, on les admirait. Ils étaient admirés par le peuple. Par contre, ils profitaient, pas mal d'entre eux, pas tous, parce que Nicodème ne fait pas partie de cela, mais ils profitaient de leur position et de cette admiration pour écraser encore davantage le peuple en posant des fardeaux que eux-mêmes ne touchaient pas du doigt. On leur imposait des règles aux autres que nous-mêmes ne faisions pas. Vous voyez, c'est comme si je vous disais, oui, vous devriez donner beaucoup plus d'argent, et puis moi je donne rien, vous voyez, vous imaginez. Un chef religieux, parce que ça c'est la deuxième terminologie, un chef des Juifs. Et donc là, on voit le rang, et c'est le plus élevé chez les Juifs. Il était membre du Sanhédrin. D'accord ? Donc, le Sanhédrin, c'est quoi ? Eh bien, c'est la plus grande instance qu'on trouve en Israël. C'était un peu le parlement et le tribunal d'Israël. Et donc, c'est là qu'on définissait les grandes orientations du pays. La politique par rapport à Rome, par exemple. Qu'est-ce qu'on devait faire ou qu'on pouvait faire ? Comment ? C'est eux qui définissaient les règles pour tout le peuple. C'est là, dans ce lieu-là, que s'est décidé le sort de Jésus, dans le Sanhédrin. D'accord ? Le jugement a eu lieu ici, et donc ça a été terrible pour lui. Et donc Nicodème, il est à la fois pharisien et chef des Juifs. C'est pas du petit lait qui vient voir Jésus ici. Là, on a la crème de la crème des Juifs, vraiment. C'est la crème d'Israël. Là, c'est, on pourrait dire, un notable de gros calibre. Et si je devais contextualiser, je dirais que c'est un évêque, mais en même temps, ce serait un député ou un sénateur qui vient voir Jésus de nuit. Et on peut le comprendre par sa position. Il voulait pas se griller avec tout le monde, parce que imaginons que Jésus n'avait, lui, pas la même cote de popularité. Il était en concurrence avec eux, parce que c'est un docteur de la loi. Et la preuve, c'est que lui, il le reconnaît. Il le reconnaît. En tout cas, si quelqu'un était proche du royaume de Dieu, selon des critères humains, je pense que Nicodème, il était tout trouvé. Et pourtant, et c'est là la grande surprise, c'est que cet homme, on pourrait penser proche de Dieu, eh bien en fait, il n'était pas dans le royaume. Et Jésus, il va y aller cash, direct avec lui. Donc on lit, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux. Donc vous voyez, déjà, on voit que Jésus, il avait fait d'autres miracles avant, parce que lui avait dû en discuter avec les gens dans le Sanhédrin, avec les chefs juifs, avec les autres. Ils avaient dû en discuter entre eux, et il reconnaît que c'était probablement le doigt de Dieu, pas probablement, c'était le doigt de Dieu. Personne ne peut faire ces miracles si c'est pas Dieu qui est avec lui. Donc vous voyez, il avait une reconnaissance de Jésus. Bon, après, je passe sur le Rabouni, ou Rabbi, parce que c'est un terme qui montre une marque de respect ici. Bref, mais en tout cas, comme pour les gens qui croyaient en lui à cause de ce qu'ils avaient vu, Jésus va pas s'arrêter à cette reconnaissance intellectuelle. Et donc, il va renverser tous les repères de Nicodème et il change d'orientation la discussion, direct. Jésus, il n'attend même pas la question, boum, il sait pourquoi il vient, il sait lire le cœur. Nous, on aurait un peu de mal avec ça, mais lui, il sait exactement. Et qu'est-ce qu'il fait ? Immédiatement, il lui glisse cette phrase, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Il n'a pas encore posé sa question, mais Jésus, il la connaît. Vous voyez ? Et il embraye direct, il vient le voir de nuit, le texte s'arrête là, et boum, on embraye. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Comment tu sais ? Je suis Dieu, t'inquiète. Et là, il renverse complètement ce qu'il y a dans sa tête. Pourquoi ? Ben parce qu'un chef religieux, il était censé connaître la loi. Donc il était censé savoir ce qu'il y avait dans l'Écriture. Et donc, la réponse de Jésus, elle le déstabilise, parce qu'elle lui dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et là, boum, objection. Il n'est pas en train de le caresser dans le sens du poil ici. Hein. En substance, c'est comme s'il disait, tu sais Nicodème, ta religion, elle te suffit pas. Ta morale, elle te suffit pas. Ton héritage spirituel, il te suffit pas. C'est un peu raide quand même, hein. On est responsable. Imaginez, moi je suis pasteur, et puis il y a un enseignant qui passe et qui me balance ces trucs-là, et il me dit « Ouais, c'est super ce que tu dis, mais mon ami, faut que tu naisses de nouveau. » Là, on avale sa pilule, et on se dit « Mais mince, moi je prêche tous les dimanches, et je connais pas l'essentiel. » Donc c'est un peu humiliant quelque part. Donc là, l'orgueil de Nicodème a dû en prendre un sacré coup. Mais c'était salvateur. C'était salvateur. Alors, qu'est-ce que Jésus cherche à faire comprendre à Nicodème ? Eh bien, il veut lui faire comprendre que son problème, ce n'est pas un problème extérieur, mais un problème intérieur. Vous avez vu ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Là, on est dans les œuvres. Hein ? Vos amis, quand vous discutez avec eux. Ah bon, tu fais quoi, toi, à l'église? Ah, t'es pratiquant. Alors d'accord, tu dois te faire baptiser, tu dois aller à l'église le dimanche, tu dois prendre la Sainte Cène, ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce que vous lui répondez, vous? Non, non, non. Ça, c'est parce que je suis né de nouveau que je fais ces choses. Mais je fais pas ces choses pour aller au ciel. On est d'accord? On met la charrue avant les bœufs. Non, 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 non. La base, c'est que tu sois né de nouveau, Nicodème. Ces choses ne sont pas mauvaises, mais ce n'est pas ça qui te fait aller entrer dans la présence de Dieu, qui crée une relation avec Dieu. En fait, depuis Genèse 3, les amis, l'homme est séparé de Dieu. Il a bien rappelé ce matin Maxwell. Notre cœur est marqué par le péché. Et la Bible dit qu'à cause du péché, on est séparé de Dieu, on est mort spirituellement. La mort, c'est la séparation, en fait. Hein. Spirituellement, on est mort. On n'a plus de connexion avec Dieu. On n'a plus la vie éternelle. La vie divine en nous, elle n'existe plus. On a une vie terrestre, mais cette vie va, à un moment donné, s'arrêter. Et Dieu, ici, il est en train de lui dire, si tu ne reçois pas cette vie-là, mon ami, eh bien, tu n'iras pas avec moi au paradis. Tu ne seras pas dans ma présence au ciel. Tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, parce que c'était ça qui préoccupait Nicodème. Le royaume de Dieu, mais alors comment on fait pour y rentrer? Est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Mais il n'a rien compris. Il n'avait pas compris. C'est clair. Mais au moins, il s'intéressait, vous voyez? Donc Jésus, quand c'est comme ça, il répond. Vous voyez, il lui répond. Mais en fait, son problème était intérieur. Nicodème voulait savoir ce qu'il avait à faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui dit qu'il n'a rien à faire, mais par contre que Dieu peut faire quelque chose pour lui. En fait, quand on est mort, les amis, est-ce qu'on peut soi-même réagir et faire quelque chose? Bien non. Imaginez-vous à l'hôpital. Vous avez quelqu'un qui vient d'avoir un accident, un infarctus, foudroyé, son cœur s'arrête et il est pris en urgence par les médecins. Il arrive à l'hôpital, on le dépose, on le branche et on constate quoi ? Cardiogramme plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de battements. La personne est décédée. Est-ce que vous pensez que le médecin, Comme cet homme est décédé d'un infarctus, qu'il était un petit peu obèse et qu'il avait mangé trop gras et trop sucré toute sa vie, est-ce que vous pensez que le médecin, à ce moment-là, va lui donner un régime à suivre ? Vous savez, vous devriez faire un petit peu plus de sport, baisser un peu les frites, manger moins de sucre. Ah, je veux dire, ce que tout le monde devrait faire, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de faire ça ? Est-ce que vous pensez qu'un médecin va faire ça ? C'est pas le moment de donner des consignes. De quoi il a besoin, le patient, là ? Électrochoc ? Eh oui, lui, il a besoin d'un défibrillateur. C'est ça dont il a besoin. Quand on est mort, les amis, on a besoin que quelqu'un nous redonne la vie. Et c'est ce que Nicodème avait besoin de comprendre. Nicodème, tu es mort spirituellement. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vient insuffler sa vie en toi, tu ne pourras pas être dans ma présence. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Et donc, vous voyez ici comment Jésus interpelle Nicodème. Ça devait être déboussolant pour lui, mais il avait besoin d'entendre ça. Parce que lui pensait que simplement, comme il était un religieux, comme il était israélite, il pensait qu'il avait hérité du salut en même temps que tout le reste, le package juif. Eh bien non. Jésus lui dit non, mon ami. T'as besoin de naître de nouveau. T'as besoin de circoncire ton cœur à l'intérieur et pas seulement à l'extérieur. Allez, on passe à la troisième. Je vais un peu plus loin que ce qu'il faudrait répondre. On est d'accord, mais ça, c'est normal. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance ? En quoi est-elle liée à la promesse de Jérémie 31 ? Alors, la promesse, le verset, il est là. « Mais voici l'alliance que je ferai, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et ce verset nous montre que qui c'est qui est acteur ici ? Est-ce que c'est la personne ? Pas trop, hein ? C'est Dieu qui va faire l'alliance, qui va mettre sa loi à l'intérieur de nous, qui va l'écrire dans notre cœur et qui sera ensuite notre Dieu et nous serons son peuple. Donc vous voyez, c'est vraiment la nouvelle alliance, c'est Dieu qui intervient dans le cœur. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Et donc quand Jésus lui dit, il parle d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit, l'eau, ça vous fait penser à quoi ? On avait vu, juste avant, au chapitre 2, l'eau, c'était la purification. Et donc là, il refait un pont avec l'Ancien Testament. L'eau de la purification, c'est la repentance, les amis. C'est ce que Jean-Baptiste était venu faire. L'eau, c'était reconnaître qu'on était pécheur. C'était cette purification dont on avait besoin. Et ensuite, Jésus vient et lui insuffle ce souffle de vie. Il va mettre sa loi au-dedans de nous, il va l'écrire, la graver sur notre cœur. Et c'est ça la nouvelle naissance, c'est l'intervention de Dieu. Nous, on ne peut rien faire. On ne peut pas se transformer nous-mêmes, on ne peut pas se changer, honnêtement. C'est compliqué, même pour vous qui êtes chrétiens, qui avez reçu les arts de l'esprit, eh bien on voit que parfois on se regarde et on se lamente. J'aimerais faire autre chose que ce que je fais maintenant. Et pourtant, on connaît Jésus. Je pense que vous l'expérimentez tous. Vous aimeriez bien changer. Et Jésus, il ajoute, « Le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » En fait, la nouvelle naissance, les amis, elle est invisible. On ne la voit pas. Ce n'est pas un papier qu'on va signer. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et ça va se voir comment ? Eh bien, comment vous voyez qu'il y a du vent ? Quand vous voyez des feuilles bouger ? Comment on voit qu'il y a l'esprit dans une personne ? Quand il y a du fruit qui commence à apparaître dans sa vie. Le fruit de la repentance, de la joie, de l'amour. Pas parfait, mais voyez ce fruit qui commence à naître. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Tous ces éléments-là sont en bribes en nous et vont devenir de plus en plus beaux. Allez, je passe à la quatrième et dernière. Quelles sont les conséquences pour ceux qui croient et pour ceux qui ne croient pas ? Parce que le texte est assez direct ici. Vous avez vu le verset 16. Ça, c'est le verset préféré, probablement. Vous le connaissez tous par cœur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il y a plusieurs conséquences, en fait, à ceux qui croient. Hein, mais là, on est en train de bien de parler de cette foi qui sauve. Pas une foi superficielle, pas une foi opportuniste, vraiment de cette foi qui sauve. Voilà ce qu'elle produit déjà. La première chose, c'est qu'on ne périt pas. Périr, c'est quoi ? Eh bien, c'est être séparé définitivement de notre Créateur. Être coupé à jamais de la présence de Jésus. Ça, c'est la perdition. Eh bien, on y échappe. On échappe à cette perdition. Et cette perdition, elle est là depuis Genèse 3, hein, c'est pas depuis aujourd'hui, c'est depuis le début en fait. Cette perdition, elle est là, et donc on va échapper à cette perdition-là. C'est quand même assez sympa quand même. Deuxième chose, c'est qu'on a la vie éternelle, d'accord ? Donc ça, c'est le plus. On échappe quelque chose, mais on gagne autre chose, et on gagne cette vie éternelle. Et ça, c'est la vie normale que tout être humain devrait vivre. En fait, c'est la vie qu'avaient Adam et Ève avant la chute. Ils pouvaient être dans la présence de Dieu sans avoir de sentiments négatifs, sans ressentir des émotions négatives. Il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte, il n'y avait pas de honte. Ils étaient nus et n'en avaient pas honte. Ils étaient dans la présence de Dieu et tout allait bien. On devrait tous avoir cette vie-là en nous. Et à partir du moment où l'homme cherche son indépendance, Dieu retire sa vie, il écarte l'homme du jardin, et donc on ne peut plus accéder à cette relation avec Dieu. Et donc Jésus vient rétablir cette relation, et il nous offre cette vie éternelle. Donc, regardez dans la vie éternelle, c'est la vie avec Jésus. N'y voyez pas seulement juste le paradis. Parce que, parfois je discute avec certains chrétiens, et puis, en fait, quand ils me parlent du paradis, même s'il n'y a pas Jésus, c'est pas grave. Véridique. Oh, ça va être génial, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça, on va plus souffrir, nanana. J'ai dit, ah ouais, ah, il est super ton paradis, il est où Jésus ? Il n'y a pas Jésus dans ton paradis. Ah tiens, c'est intéressant. T'as pas tout capté, je crois. La vie éternelle, les amis, c'est la première chose. On sera tout le temps avec Jésus. Dans sa présence glorieuse. Ça va être juste génial. Notre relation avec Dieu va être totalement restaurée. On n'aura plus cette lutte avec le péché. On n'aura plus à lutter contre nos tendances. Mauvaises. D'accord ? Si ce sont des bonnes, allez-y. Mais quand on a des tendances mauvaises, aujourd'hui, on lutte, les amis. Et c'est normal, c'est la vie chrétienne. Mais on sera libéré de ça. On n'aura plus à prendre d'aspirine, vous n'aurez plus besoin de venir avec vos béquilles, vous n'aurez plus à vous plaindre le matin en vous levant, parce que tout ça, ça sera disparu. Plus d'antalgique. C'est pas génial, ça ? Plus de régime. Tu pourras manger du gluten, Valérie. Et il y en a d'autres qui pourront manger du lactose et toutes les allergies qu'on a ici-bas. On pourra se balader pieds nus dans le gazon. Il n'y aura plus de chardon. Génial. Et il y a encore une autre chose à laquelle on échappe, c'est à la condamnation, les amis. Celui qui croit en lui n'est point jugé. On n'est pas condamné, en fait. C'est ce qu'il faudrait dire. Parce que la condamnation et le jugement sont deux choses différentes. Mais là, il parle bien ici de la condamnation. Alors, attention. Dieu ferme pas les yeux, hein. Normalement, on mérite la condamnation. On est d'accord. En fait, cette condamnation, elle est plus sur nous parce qu'elle est tombée sur quelqu'un d'autre. Mais c'est aussi parce qu'on a reconnu qu'on était coupable. Et Dieu, parce qu'on reconnaît notre culpabilité, alors il nous offre et il nous fait échapper à cette condamnation. Je vous donne ici une image. Imaginons, et ça peut vous arriver, je pense que je vais peut-être donner un avertissement ici. Ça vous arrive de regarder votre téléphone en roulant ? C'est interdit, hein ? Je connais des gens qui sont morts. J'en connais un récemment, il a fait tomber quelque chose, il s'est baissé, il n'est pas loin d'ici, hein ? Il s'est baissé dans sa voiture, et bien sûr, pour ramasser son téléphone, Il a échappé à la route, et quand il s'est relevé, boum ! Imaginez que ça vous arrive. Et donc, par la grâce de Dieu, vous restez en vie, mais votre voiture fait plusieurs tonneaux et vous vous retrouvez dans le fossé. Vous passez en jugement, vous reconnaissiez que vous étiez en train de regarder votre téléphone ou de le chercher, et donc le juge vous regarde et vous dit « Écoutez les amis, mon ami, tu es coupable. » Tu l'as reconnu, parce que c'est toi qui l'as déclaré. Mais quelqu'un a payé à votre place. Et en fait, un ami chrétien, quelques semaines avant votre accident, est venu vous voir et vous a dit « Tu sais, je connais une assurance, c'est JC Assurance. JC Assurance offre en ce moment gratuitement une assurance tout risque. Est-ce que tu la veux ou pas ?» Lui, il a dit « C'est gratos, je prends. » Et il a signé. Et du coup, au tribunal, il y avait JC qui était là, l'assureur. Il a dit « C'est moi. » Il est assuré, c'est un de mes administrés. Il a signé son contrat, donc je valide. Est-ce qu'il était non coupable ? Il était coupable, mais il y a quelqu'un qui a payé à sa place, c'est son assureur. Oui, vous avez compris qui s'agissait là. En fait, on échappe à la condamnation parce que quelqu'un a pris sur lui. Il a pris... Et pourtant, on le méritait. On a commis cet accident. Alors, ce n'est pas un gros péché de lire son téléphone, mais vous savez comment c'est puni aujourd'hui par la loi française ? C'est un délit majeur. C'est-à-dire que vous serez considéré, si vous le faites, comme un criminel. Donc, vous allez faire de la prison. Si vous regardez votre téléphone, que vous avez un accident, que vous tuez une personne, vous allez en prison. Donc, vous avez JC Assurance ? Il ne vous échappera peut-être pas la prison, mais en tout cas, ici, dans ce cas-là, concernant le salut, oui. Parce que c'est ça qu'il assure, ce n'est pas votre voiture, c'est vous qu'il assure, c'est votre âme. Et votre âme, elle est condamnée. Et c'est finalement ce qui pèse le plus sur celui qui ne croit pas. Regardez le texte, celui qui ne croit pas en qui ? En Jésus. Il est déjà jugé, déjà. Ça vient d'où ? Genèse 3. Déjà, dès la chute, ça vient de là. Tout le monde est condamné, tous. Et je vais dire là une chose qui va peut-être vous choquer, mais dès votre naissance, les amis, vous êtes condamnés. On est tous condamnés. Après, il y a la grâce de Dieu. Mais on est condamné dès notre naissance à cause de la chute, parce qu'on hérite de la nature pécheresse de nos parents qui l'ont hérité d'Adam. Et donc, du coup, on est déjà jugé. On n'a pas le choix, quelque part. On est déjà jugé. Allez, je conclue. Vous avez vu que dans le chapitre 2, la fin du chapitre 2, la foule admirait les miracles de Jésus. Nicodème, lui, il va admirer l'enseignement de Jésus. Et on ne sait pas la suite de Nicodème. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est le jeune homme, vous savez, qui est parti nu en courant lorsqu'il était à la croix. Il y en a qui disent que c'était probablement Nicodème. On ne sait pas vraiment. Mais Jésus dit ici à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Il ne dit pas, il faudrait peut-être que tu naisses de nouveau. C'est conseillé de naître de nouveau. C'est pour les autres. Non, non, il faut. Vous voyez, il y a vraiment ici un problème de fond qu'on doit résoudre. Il faut que l'on naisse de nouveau. Et là, je m'adresse à toi, parce que c'est la conclusion. Ce matin, je ne sais pas si tu es né de nouveau, né d'en haut. Est-ce que le Saint-Esprit est venu, t'a saisi, et il t'a fait comprendre qui tu étais, la noirceur de ton péché, ta faillite spirituelle, et est-ce que tu as compris qu'il n'y avait qu'une seule solution ? Jésus. C'est le seul. Qui peut te faire échapper à ce jugement. Si tu n'as pas saisi ce message par la foi, parce que ce qui nous permet, le moyen qui nous permet d'être né de nouveau, c'est la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est lorsque Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire, les amis. Il vient enlever le cœur de pierre, il vient écrire sa loi à l'intérieur et il vient insuffler. C'est lui qui nous branche au défibrillateur spirituel. Il nous redonne cette vie qu'on ne peut pas avoir tout seul. C'est l'intervention de Dieu. Et ça commence par un regard. Vous savez le texte qu'on a lu ? Les gens mouraient parce qu'ils avaient été piqués par des serpents. Et Dieu dit à Moïse, tu vas faire un serpent, tu vas l'élever comme ça, et les gens vont devoir le regarder. C'était complètement stupide, en fait. C'était pas un médicament à prendre. Mais c'est ce qui sauvait. Il fallait juste regarder le serpent. Les amis, il faut juste croire en Jésus. Juste croire. T'as rien à faire. Nicodème voulait faire des œuvres. Jésus dit non, ça sert à rien. Tu dois juste naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Ce regard qu'on portait sur ce serpent d'airain, c'est la foi. C'est pas une admiration passagère, c'est pas une curiosité spirituelle, c'est pas un enthousiasme religieux, c'est pas de l'opportunisme. C'est une confiance personnelle, une dépendance, un abandon. On comprend vraiment ce que Jésus a fait à la croix. En fait, il y a une petite nuance, et je vous pose cette question-là. Votre foi repose-t-elle sur ce que Jésus fait pour vous maintenant ou sur ce que Jésus a fait pour vous ? Vous voyez la différence ? Est-ce que vous croyez en Jésus juste parce qu'il vous fait du bien maintenant ou est-ce que vous croyez en Jésus parce qu'il a fait à la croix pour vous ? Ça change tout. Ça change tout. Est-ce que vous admirez Jésus pour ses bienfaits ? Ou est-ce que vous admirez Jésus parce qu'il est votre sauveur ? Parce que c'est le seul qui peut vous arracher des flammes de l'enfer. Est-ce que vous êtes impressionné par la cérémonie d'ouverture ? Ou est-ce que vous êtes entré dans le royaume de Dieu ? Moi, je ne peux rien faire pour vous. Par contre, vous pouvez saisir ce message par la foi.